L'actualité ne prend pas congé sur les ondes de Boulevard 101. Il est présentement 7h34. On est là aujourd'hui. On va être là demain matin aussi à compter de 7h29, 30 et 31 décembre. C'est Pascal CV. Il faut toujours que je regarde. Là. Je suis toujours mêlant entre le 28
demain,
puis le 29.
On va être là à partir de 7h. Et oui. Non, 7h29.
Non, c'est ça, exactement. T'as raison. Je suis un peu mélangé dans tout ce que j'ai dit, finalement. T'es en train de me remettre à jour, Pascal CV. Tu fais bien.
À partir de 7h demain, 24, on vous accompagne.
Oui, on vous accompagne pour le réveillon. Pis, après ça.
C'est ça, le 29-30-31.
Ouais.
Toi, t'es en congé, c'est ta fête le 29.
C'est ma
profite.
Fête le 29. Donc, c'est Pascal CV et Mathias Turcotte qui vont être présents à compter de 7h. Puis à travers ça, ben, il y a du point de max à 11h. Il y a les meilleurs moments de Gravel également à compter de 14h. Il y a Gravel du temps des fêtes le 24 décembre et le 1er janvier. Il y a du Boulevard du Rock avec Colosse. Du garage avec Dan. Bref, on a une programmation de feu.
Hier, as-tu entendu le point de max?
Non, j'ai pas entendu le point de max.
Midi, là.
Ouais.
Puis il y a eu Claude Villeneuve.
Oui,
une longue entrevue. C'était une longue entrevue.
Oh, oui.
Il y en a des choses à dire, Claude Villeneuve. Je pense qu'il s'est retenu pendant un bout.
Ouais, mais c'est ça, là. Il s'ennuie d'être chroniqueur.
Il s'est mis à commenter tout et rien. C'est un ancien de la politique municipale, si vous le replacez pas. Un petit peu plus discret dans cette campagne électorale-là. Quand même quelqu'un qui a été bien présent autant dans le journalisme que de la politique municipale depuis des années. Là. Mais c'est intéressant de les entendre discuter.
Non, très intéressant. Max Larouche qui fait un excellent travail avec le Point de Max qui, dans la programmation régulière, est de 10h à midi. D'ailleurs, notre programmation régulière reprend le 5 janvier. Mais sans Marceau qui va être encore en vacances. Fait que Pascal, c'est Yvon, on sort tape un marathon de radio, nous autres, le matin puis le midi avec l'émission On en jase.
On ouvre l'année avec vous, puis ça, c'est le cas de le dire.
Ah oui, on est très chanceux d'ouvrir l'année avec vous. Parlant de chance, Pascal CV, on est chanceux de pouvoir compter sur le meilleur chroniqueur en politique américaine ici à Boulevard 102.1. Et j'ai nommé l'ancien enseignant en histoire des Amériques au Cégep Garneau, Luc Laliberté. Salut Luc, comment vas-tu?
Ça va très bien. Bonjour à vous deux et joyeux anniversaire à l'avance. Si jamais on se reparle pas,
merci beaucoup.
C'est mon anniversaire.
C'est très, très, très gentil. 46 ans, mais je me sens pas comme 46. Fait que c'est ça que...
Tu te sens comme 59?
Voilà.
Non, je me sens comme un, je me sens comme un 35.
Oui, t'as l'air de ça.
Moi, je me sens
t'as beaucoup d'énergie pour ça.
Exactement. Luc, trois événements qui me font craindre le pire pour les États-Unis. Je t'explique. On est en train de refaire la Maison-Blanche pour le bonheur de Donald Trump. On a parlé des fameux panneaux sous les peintures, les cadres des anciens présidents la semaine dernière. Là, on fait des rénovations pour que ça soit vraiment à son image. CBS qui ne diffuse pas un reportage sur les expulsions en immigration en heure de grande écoute le dimanche soir. Et là, Donald Trump, hier, s'en va dire « Les nouveaux bateaux de la marine vont porter mon nom. » Puis il y a même un gars super intelligent comme Marco Rubio qui embarque là-dedans. Luc, on s'en va vraiment dans un régime autoritaire. À l'heure actuelle, c'est quand même questionnant.
Écoute, moi, j'en ai parlé pendant la campagne électorale. Donc, c'est quand on lisait... D'abord, quand on ne faisait que reprendre ce que Donald Trump disait, ou qu'on lisait le fameux projet 2025. Il y a bien des gens pendant la campagne qui se demandaient ce qu'était ce document-là. Ben, on en applique de grands pas depuis janvier 2025. Donc, pendant toute l'année, entre autres choses, on a fait disparaître tout ce qui était dans le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir du président, tout ce qui était les contrepoids pour que le président évite d'avoir finalement l'ensemble des pouvoirs. Il y a un certain nombre d'organisations à l'intérieur du pouvoir exécutif qui étaient apolitiques, qui étaient neutres. C'était des gens qu'on nommait, mais sur une longue période, justement pour les sortir du jeu politique partisan. Et Donald Trump s'est employé, d'abord avec Elon Musk, mais ensuite on continue le travail, à faire tomber tous ces contrepoids. Pour les gens, ça peut vouloir dire ben quand un président gagne, il doit avoir la totalité du pouvoir, du moins au sein du pouvoir exécutif. C'est pas comme ça qu'on avait pensé le système. Si on est partisan de Donald Trump, on aime ça. Si on est partisan, j'ai envie de te dire, je vais aller jusque-là, si on est partisan de la démocratie, on n'est pas content de ça parce que tout ne devrait pas être politique ou partisan. Donc, Donald Trump, ne serait-ce que par ça, démontre qu'il a une volonté d'être un meneur autoritaire. Mais ça va bien au-delà de ça. Donc, mon mot de l'année 2025 en politique américaine, moi, ça a été autoritaire. On pensait que Donald Trump allait vouloir mettre en place un régime autoritaire et il nous a montré dans à peu près tous les domaines possibles et imaginables qu'il était prêt à aller jusque-là. Et quand tu parles, par exemple, des nouveaux navires, de cette nouvelle flotte, de ce nouveau type de navire que Trump veut, c'est pas fait officiellement, hein, mais on dit qu'il veut que ce soit le premier navire, par exemple, de cette série s'appellerait le USS Trump. Donc, reculons-le pendant toute l'année et regardons ce sur quoi Donald Trump a mis son nom. La fameuse salle de bal à la Maison-Blanche, on dit qu'il veut appeler ça le Trump Ballroom. Hein? Donc, c'est l'aile Est. Ça aussi, on pouvait avoir besoin de place à la Maison-Blanche. Est-ce qu'on devait tout jeter par terre sans consulter personne, sans rendre de compte? C'est autre chose. C'est un bâtiment, c'est un musée, la Maison-Blanche. Hein? C'est un bâtiment historique. Donc, il y a ça. On sait qu'il a fait apposer son nom sur l'Institut américain de la paix, qui est maintenant l'Institut Donald Trump pour la paix aux États-Unis. Donc, son nom est sur le bâtiment. Il y a le Kennedy Center qui est un mémorial à John F. Kennedy. C'est plus qu'un bâtiment sur lequel le nom de l'ancien président assassiné apparaît. C'est un mémorial. Il y a le Lincoln Memorial, là, c'est la statue, le Jefferson Memorial. Le Kennedy Center, c'était aussi un mémorial. Et là, Donald Trump, il y a des gens qui vont poursuivre pour tenter d'enlever ça, mais met son nom, c'est le Trump Kennedy Center. Et là, bien sûr, ben, il y a ce navire avec sa flotte. Est-ce que c'est le comportement d'un meneur démocratique? Aux États-Unis, quand on appose votre nom sur quelque chose, c'est que vous avez fait, quelque chose d'assez extraordinaire sur une assez longue période. Et on ne vous donne pas ça pendant que vous êtes en fonction. Et plus souvent qu'autrement, et là, je ne souhaite rien, puis ne donnez pas une portée autre à mes propos, mais plus souvent qu'autrement, ça arrive quand vous n'êtes plus là, quand vous êtes décédé. C'est une façon de commémorer votre œuvre, hein, d'entretenir le souvenir ou la mémoire d'un homme ou d'une femme qui a une contribution qui est importante. Donc, c'est... On répète ça souvent... En 250 ans, parce que ça va être le 250e des États-Unis en 2026, il n'y a rien qui se compare à ça. Il y a des politiciens qui ont pu faire des choses qui ressemblent à un volet de ce qu'a fait Donald Trump, mais il n'y a personne qui a fait tout ce que Donald Trump fait, puis la plupart du temps, sans consulter, sans avoir l'autorisation de son propre chef. Tu parlais des décorations à la Maison-Blanche, des plaques. Moi, il y a une autre chose, hein. Si on joue dans toutes sortes de théories puis qu'on se laisse emporter un peu, quand est-ce que tu décores ta maison comme ça soudainement? Est-ce que c'est parce que tu veux la mettre à ton goût parce que tu ne penses pas déménager ou que tu veux, en très mauvais français, la pimper pour la mettre en vente? On ne peut pas la mettre en vente, la maison blanche. Mm-hmm. Donc, ça donne l'impression de quelqu'un qui, veut laisser sa marque ou encore quelqu'un qui n'a pas envie de s'en aller.
Oui, mais c'est particulier, Luc, quand même, parce qu'il n'y a personne qui l'arrête dans cette lubie-là. Y a-tu vraiment tous les droits pour commencer à tout renommer aux États-Unis en son nom? On rit, mais c'est pas drôle en même temps de refaire, si jamais il y a un autre président qui décide d'annuler ce qu'il a fait ou de rechanger les noms, ouais. De refaire le tout, ça va demander du jus de bras, de l'énergie, du temps qu'on avait à mettre ailleurs que là-dedans. Puis lui, clairement, ce qui est prioritaire, c'est pas de régler d'autres dossiers en ce moment. Puis on l'a un peu vu venir, non?
Écoute, c'est une administration, puis on peut en jaser par la suite, mais c'est une administration qui est là pour les gens qui ont déjà énormément de pouvoir et des gens qui sont déjà des meneurs dans l'économie. Donald Trump a un pouvoir qui est très grand, mais c'est un pouvoir qui a des limites. C'est des limites qui viennent des tribunaux ou encore des limites qui viennent de la classe politique. Et là, ce qu'on voit depuis janvier 2025, c'est que là où on pourrait le freiner au plan politique, il y a beaucoup de républicains qui ont décidé de le laisser aller. Sinon, on voit plein de gens qui plient devant Donald Trump, mais la plupart du temps, c'est pour une question d'argent. Donc, c'est pour une question de gros sous. Et ça, c'est pas nouveau. Et ceux qui, par exemple, ces jours-ci, on parle plus des médias ou on parle de grandes compagnies, on parle du rachat de la compagnie Warner, par exemple. Là, on est dans les super compagnies. Ah, c'est des milliards et des milliards de dollars. Ces gens-là ont toujours été près du pouvoir. Mm-hmm. Et c'est pas eux sur qui on va compter pour déloger Donald Trump. Ils ont besoin, par exemple, Warner, pour qu'on autorise une vente, pour qu'on passe entre les mains d'autres intérêts. On a besoin de la permission du gouvernement fédéral et ça vient du pouvoir exécutif, entre autres l'équivalent du CRTC aux États-Unis, qui est la FCC. Donc, c'est pour ça qu'on voit des gens plier. Nous, on peut se dire de notre côté, bien, ces gens-là sont immensément riches. Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas leurs pieds à terre? Parce qu'on met les milliards et les milliards en jeu avant de penser à ce qui serait, aux yeux de la majorité des gens, indécent. Mais c'est une administration qui est là pour les plus riches, qui est là pour les plus puissants. Puis, ben écoute, entre gens qui ont énormément de pouvoir, on prend des décisions, puis ben dans le reste de la pyramide, si on veut, hein, si on va vers le bas de la pyramide, on a relativement peu de soucis pour ce que ça peut apporter ou ne pas apporter aux gens qui sont en dessous. Mais il y a une concentration des pouvoirs comme on n'en a pas vu dans l'histoire américaine depuis George Washington, depuis la Révolution d'indépendance.
Parlant de riches et puissants, Luc, il y a 8000 nouveaux documents dans le dossier de Jeffrey Epstein qui ont été justement publiés ce matin. Mathias, veux-tu nous faire un résumé?
Oui, bien, le ministère avait jusqu'à vendredi dernier, en fait, pour publier tous les documents en lien avec toute affaire reliée à Jeffrey Epstein et sa fameuse île. Visiblement, ils ont pris un peu de retard parce que de nouveaux documents ont été publiés ce matin. 11 millions vers de nouveaux documents ont été mis en ligne par le ministère de la Justice. Par contre, on dit que plusieurs liens ne mènent à rien. Fait qu'est-ce qu'on cherche encore à cacher des documents? Une chose est sûre, c'est que ces documents-là sont encore censurés. Il y a plusieurs victimes, justement, qui critiquent le processus en disant que il n'y a pas toutes les informations dans des documents. L'opposition également accuse de retard en disant qu'il cherche à cacher la présence du président américain dans ces dossiers-là. Hier, Donald Trump qui a commenté le dossier en disant qu'il craignait que publier ces documents-là nuise à certaines personnes qui n'ont pas nécessairement de lien avec un scandale sexuel, mais qui étaient par contre amis ou un proche de Jeffrey Epstein.
C'est encore une preuve, ça, Luc, qu'on est vraiment dans la stratégie politique du pouvoir et justement de prendre soin des hauts placés, des très riches aux États-Unis, parce que c'est un fouillis, là, le dévoilement de ces documents-là là, dans le dossier Epstein.
Écoute, pour les gens qui sont à l'écoute, pour qu'on comprenne bien à quel point c'est problématique la situation du dossier Epstein, c'est d'abord, Donald Trump l'avait promis en campagne, il avait le pouvoir dès la première journée, tout de suite après avoir mis la main sur la Bible quand il a prêté serment, il pouvait très bien rendre ces documents-là publics comme il l'avait mentionné pendant la campagne. Donc, c'est en fait, le département de la justice possédait, c'est de ça dont on parle quand on parle des documents Epstein, parce qu'il en vient aussi de la succession Epstein. Donc, ben, parfois, on mélange, là, on voit des nouveaux documents, mais pour ce qui venait du département de la justice, il pouvait traiter tout ça comme il l'avait promis. Maintenant, on nous dit, ben, on ne peut pas dévoiler tout parce que c'est long, parce que les avocats passent là-dessus, parce que, comme Mathias vient de le dire, on veut protéger les victimes. Sachez que le FBI était déjà passé sur ces documents-là et qu'on les a fait travailler à fond la caisse pendant des semaines. Donc, que le département de la justice maintenant dise, ben, écoutez, il faut finir de traiter ça, c'est déjà une excuse qui est faible. Et l'autre chose, c'est que l'administration contrevient littéralement à la loi. Quand on a voté cette loi-là au Congrès et que Donald Trump l'a signé à la toute fin, après s'être fait tordre le bras un petit peu, mais quand Donald Trump a signé cette loi-là, c'était vous négociez pas des semaines de plus pour dévoiler l'ensemble ou divulguer l'ensemble des documents, vous nous donnez ça. C'était prévu vendredi et on ne l'a pas. Maintenant, ce qu'on a entre les mains, ça a fait jaser puis ça va continuer à faire jaser parce que personne n'est au ministère de la Justice parmi nous, mais on a des documents qui parfois sont des pages noires complètement. On a des documents qui sont vraiment fortement caviardés et ce qui a étonné plein de gens, c'est, puis quand tu parlais de récupération politique, on a eu beaucoup de photos de Bill Clinton, par exemple. On savait que Bill Clinton avait fréquenté Epstein. Ça rend pas ça plus agréable pour Bill Clinton. Bonne chance pour négocier avec Hillary Clinton ensuite quand il se retrouve à la maison, même si ça fait longtemps. Donc, c'est pas la première fois que la vie personnelle ou les démêlés, les déboires personnels de Bill nuisent à Hillary.
On va se rappeler Monica Lewinsky.
Ouais. Oui, puis dans la dernière campagne pour Mme Clinton, quand elle a perdu face à Donald Trump disait « Vous me reprochez des choses, mais regardez ce qu'a fait Bill avant. » Puis il y a un débat où il avait fait venir des femmes qui s'étaient déjà plaintes de Bill. Donc, ça enlevait une à la portée des attaques. Mais donc, On sait que Bill Clinton est là. Il y a même des porte-paroles de M. Trump qui le défendent dans les médias, qui disent on devrait appeler ça les Clinton Files. Il y a plein de monde là-dedans. Donc, ça, c'est de la récupération politique. Et si Bill Clinton a un prix à payer pour ça, qu'il le paie. Mais quand on regarde les autres photographies, on a plein de monde là-dedans. Mais étrangement, celui qu'on voit le moins, c'est Donald Trump. Alors qu'on a des preuves à quel point Trump et Epstein ont été liés de très, très, très près. Le gros problème, je répète, c'est que quand ces documents-là vont sortir, un, on n'a jamais toute l'information autour d'un document et tous ces documents-là ne se valent pas. Une photo, pas de contexte, c'est très... Que ce soit Clinton ou Trump, c'est ça très difficile. Ouais. Ben voilà. On a fait, par exemple, on a lu déjà des courriels d'Epstein. Epstein était poursuivi par la justice. Il peut très bien lui-même tenter de faire accuser d'autres personnes, en disculper d'autres. Donc, on a rarement la preuve complète. Parfois, on a des documents du FBI. Ça, c'est déjà plus factuel. Ce sont des mémos dans lesquels là, on dit « voici ce qu'on a ». Mais là, on va fournir plein de choses à plein de gens, sans contexte, puis on va y aller finalement par des théories du complot ou encore par il n'y a personne qui est plus propre après avoir fréquenté Epstein. Ce n'est que dommageable, mais on va faire du coupable par association. Tu as vu Epstein, tu es coupable. C'est là-dessus qu'on essaie de noyer le poisson un petit peu. Mais la relation entre Trump et Epstein, elle est beaucoup plus profonde et intense que ce que le président en a dit.
Mais Luc, en tout cas, je réfléchissais là-dessus là, dans les dernières heures.
Ouais.
Puis je me disais, OK, mais admettons là, que tous ceux qu'on voit sur les photos puis ce qui sort sont coupables de quelque chose. Il y a vraiment eu des rapports sexuels avec des jeunes femmes mineures, etc. Ils font partie de l'affaire Epstein. Par exemple, tu sais, on a vu des gros noms de l'industrie, là, des gens qui ont marqué les États-Unis par leur talent, qui ont été écrits dans des livres d'or, qui ont été encensés à travers le monde, qui ont participé à cette grandeur économique, artistique, politique de tout ce qui est conçu à travers le monde comme étant la plus grande des puissances, OK? Est-ce que ça peut être retenu parce que ça changerait le visage des États-Unis dans un contexte actuellement géopolitique ultra difficile? Ça peut-tu être ça? C'est-tu pour ça que ça sort pas autant? Parce que c'est pas juste entre les mains de Trump, c'est pas juste entre les mains de tout ce qui se passe en cours pour Epstein, là.
Ben voilà, ta question, ton commentaire, c'est excellent, Pascal, parce que c'est exactement pour ça, entre autres, que les gens appuyaient Donald Trump. On disait Donald Trump n'est pas comme les autres, on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il dit, parfois il exagère, parfois il déforme. Mais lui ne doit rien à personne. Donc, on va mettre la main sur l'ensemble des documents. Mais le constat, il est affligeant. C'est qu'on a l'impression que les riches et puissants, puis là, c'est plus conservateur et progressiste, c'est plus républicain contre démocrate. On est dans tout ce qui est milieu des affaires, on est dans tout ce qui est art et spectacle, on est en politique aussi, en politique internationale, on est en droit. Il y a des avocats, par exemple, qui ont été drôlement embêtés par leur fréquentation avec Epstein. Ce sont effectivement les riches et les puissants. Et là, on a l'impression que ces gens-là, moi, aux États-Unis, j'aurais personne pour me protéger autre que ce que j'investirais dans mon avocat si j'ai les moyens. Mm-hmm. Mais là, on a l'impression, c'est l'impression que ça laisse, et je répète, j'insiste sur perception ou impression, que les riches et les puissants se protègent entre eux. Donc, mais déjà, ça a fait, ne serait-ce que coupable par association. Moi, il y a quelqu'un que j'ai beaucoup lu en histoire américaine, qui est Noam Chomsky. Donc, c'est un penseur aux États-Unis. Dans son milieu, dans sa sphère, il était presque vénéré. Et là, il vient de tomber de très haut, Noam Chomsky. Il y a eu des transactions financières avec Epstein. On l'a vu à bord de son avion. Pour les gens, c'est quelqu'un de pur, Noam Chomsky. Il vient de prendre une sacrée débâcle. Vous avez vu Woody Allen de l'autre côté?
Oui.
Woody Allen a déjà eu des démêlés personnels, là, mais je veux dire, il n'y a rien pour améliorer sa cote de popularité. Donc, à Allen d'avoir fait ça, on pourra en nommer d'autres. Bill Gates. Tout le monde, à peu près, a entendu parler de Bill Gates. On apprend finalement que son divorce est lié en partie à ses fréquentations d'Epstein. Sa conjointe disait « t'as rien de bon à gagner à fréquenter ce gars-là, j'ai pas confiance ». Puis Gates a fini par reconnaître plus tard que ça avait été une erreur. On peut le croire ou pas, lui dit « ben moi j'étais là pour la fondation » parce que Epstein fréquentait le gratin, toujours. C'était quelqu'un qui faisait dans les mondanités, donc il était près des vedettes ou des gens influents. Peut-être qu'il y a plein de gens qui l'ont croisé en espérant, comme Gates, avoir des contributions financières. Peut-être qu'on a demandé plus aussi, puis peut-être qu'on le saura jamais. Mais Bill Gates est ressorti de là drôlement amoché, lui qui avait essentiellement la réputation depuis quelques années de donner de l'argent ou d'organiser avec sa fondation donc des levées de fonds pour venir en aide, une aide bien réelle à des gens qui en ont besoin.
Chose certaine, Luc, ça fait en sorte que Donald Trump s'éloigne de plus en plus de sa base en protégeant justement ses hauts placés aux États-Unis.
Voilà. Moi, en politique, c'est ce que je surveille. Et Donald Trump est affaibli présentement. Dans les sondages, ça, c'est assez facile de le constater. Mais c'est jamais dans les sondages globaux qu'on peut voir des tendances tellement c'est polarisé aux États-Unis. Donc, ce que je regarde avec Donald Trump, c'est est-ce qu'il va chercher, ou les républicains, vont-ils encore chercher des indépendants? Vont-ils chercher des démocrates déçus? Vont-ils chercher des gens qui ne votent pas habituellement? Puis, est-ce que Donald Trump maintient sa base? La raison pour laquelle le Parti républicain a été tellement fidèle à Donald Trump, c'est qu'on a besoin de cette base-là qui ne s'effritait pas. Mm-hmm. Et maintenant, Donald Trump, ce qu'on voit dans les sondages, puis ce qu'on rapporte à l'interne à la Maison-Blanche, il ne va jamais perdre complètement sa base, Donald Trump, mais il en perd une partie.
Mais j'espère.
Et ça, pour... Ben voilà.
Mais j'espère, mais parce qu'à un moment donné, tu sais, il y a des gens super intelligents là-dedans, puis ils se rendent probablement compte de ce qu'on se rend compte, là.
Ah, c'est très, très, très divers. Ce qu'on appelle les MAGA, là, on a mis des étiquettes parfois qui étaient pas chic hein, sur ces gens-là. C'est très, très, très diversifié, ceux qui appuient Donald Trump. Et c'est pas tout le monde là-dedans qui... C'est surtout pas tout le monde qui prend pour du cash tout ce qui sort de la bouche de Donald Trump. Donc, on l'a appuyé pour une foule de raisons. Mais là, il y a des gens qui débarquent du train. Et si je suis un républicain, ça m'inquiète, parce que l'année prochaine, dans 10 mois, on est en élection aux États-Unis. Les 435 représentants mettent leur siège en jeu et le tiers des sénateurs mettent leur siège en jeu. Si je suis un républicain, est-ce que j'ai encore envie à que mon héros pour l'élection, pour aller rejoindre mes concitoyens, ce soit Donald Trump? Écoute, dans certains cas, que Bill Clinton soit là ou pas, ça ne change rien au fait qu'on a l'impression que Donald Trump évite de nous donner ce qu'on demande et ce qu'il nous a promis. Mm-hmm.
Luc, je termine cette excellente chronique en politique américaine avec une petite parenthèse de temps des fêtes. Je te vois avec ton jeu des Steelers de Pittsburgh. Mike Tomlin, une 19e saison consécutive avec un dossier gagnant. C'est exceptionnel ce que cet entraîneur-là fait.
Surtout avec, puis je suis un partisan très critique des Steelers, mais écoute, on en a arraché une, je ne sais pas comment on l'a gagné la dernière,
à Détroit,
on a fini dans un cafouillis total contre les Lions, puis il y a des bonnes chances qu'on soit en série, mais Tomlin fait, c'est un tour de force que d'avoir dans les dernières années une équipe aussi rapiécée que les Steelers, en défensive et en offensive. Aaron Rodgers, que j'ai aimé quand il était avec les Packers, je me disais, il devrait prendre une carrière prestigieuse puis aller à la retraite. Ben écoute, cette année, il faut que je lui donne ce qu'il apporte, l'expérience puis un bras d'enfer encore. Il est arrivé à pousser les Steelers à une fiche de 9-6, alors que moi, je leur donnais pas de chance d'entrer en série. Ils ont de bonnes chances de le faire. Donc, je mettais mon chandail en me disant, je pensais plus le porter à ce temps-ci de l'année. Là, je me préparais pour les séries tranquillement, sans mes Steelers. Ben non, surprise. Mm-hmm. Je pense pas qu'on aille très loin, mais ça va quand même être fait. Et Tomlin, qu'on a hué à Pittsburgh il y a peu de temps. Les partisans étaient en colère parce qu'on avait eu quelques défaites avant les 3 victoires consécutives. Si jamais à Pittsburgh, on se défait de ce gars-là, il va se trouver dans un claquement de doigts, il va se trouver une job. C'est une machine de coaching.
Et pour la petite histoire, puis pour faire un lien politique, c'est le premier entraîneur-chef de couleur avec les Steelers de Pittsburgh. Donc, il a justement défoncé les barrières.
Ouais, puis écoute, on a recruté autrement dans la NFL, hein, quand on parle des changements sociaux, puis là, les gens disaient, ah, on sait bien, c'est des choses de woke ou c'est des choses de progressistes. Pendant des années, les quarts arrière, les coachs, les propriétaires, tous ces gens-là étaient essentiellement des blancs.
C'est vrai.
Et grâce à Mike Tomlin, puis bien sûr à des pressions aussi, maintenant, quand on procède à des embauches au sein des équipes de la NFL, on se doit de on n'est pas obligé. On se doit de considérer les candidats de couleur parce qu'on ne recrutait avant que dans des réseaux qui mettaient en place des coachs blancs. Donc oui, effectivement, Tomlin a de ce côté-là un héritage qui va même au-delà du simple sport ou de la colonne des colonnes, victoire-défaite.
Exactement. Lui avec Tony Dungy, évidemment, l'ancien entraîneur des Colts d'Indianapolis avec Peyton Manning. C'est deux grands Pascal qui ont fait en sorte qu'il n'y a plus de différence raciale dans la NFL et ça, c'est tellement important.
Ça en prend plus des gens comme ça pour perpétuer justement ces changements-là.
Exactement. Luc Laliberton, tu souhaites des joyeuses fêtes. Profites-en
bien. Joyeuses fêtes à toute l'équipe. J'espère vous retrouver en 2026. C'est toujours un grand plaisir que de jaser avec vous autres comme ça. Puis j'espère que les auditeurs apprécient. C'est convivial, mais en même temps, on passe d'infos au travers de ça.
Je vais te dire bien honnêtement, voir les textos qui rentrent pendant que tu parles, Luc, ne t'en fais pas avec ça. Les auditeurs de Boulevard 102 t'ont adopté à 100%. Et avec raison, parce que c'est toujours très, très, très intéressant tes chroniques.
Écoute, de joyeuses fêtes à tout le monde. Merci. On se revoit en 2026.
Excellent. Salut, Luc Laliberté.
Hi.
Joyeuses fêtes. Alors, Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine, ex-enseignant au cégep Garneau. Luc est une véritable bible d'information aux États-Unis. Et Pascal, va vraiment falloir garder un œil sur Donald Trump pour 2026.
Mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. C'est ça qui est épouvantable. Il y a toute la légalité de faire ce qu'il fait en ce moment.
En effet.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est les dommages collatéraux. Je fais un parallèle douteux, mais un parallèle tout de même. L'implication qu'a eu le changement de la loi 2, même si ça n'a même pas été imposé puis ça n'a même pas été travaillé, parce que là, on l'a gelé, finalement, on la reporte puis on la retravaille, a créé des dommages collatéraux pour plusieurs années. Il y a certains médecins qui pensent pour un bon 10 ans parce qu'il y a quand même eu des départs. Il y en a eu moins parce qu'on n'a pas fait imploser le système. Mais il y a eu quelques dizaines de départs dans plusieurs secteurs. Puis ça, ça a créé un trou au niveau, entre autres, de la médecine familiale qui ne sera pas rattrapable avant les 10 prochaines années. Mm-hmm. Le temps que les cohortes se placent, le temps qu'on soit capable... Il va y avoir des orphelins de médecins, c'est sûr. Puis là, on se dit... C'est en l'espace de quelques... Là, ça fait un mandat de plusieurs années. Probablement à la fin. Donald Trump va avoir changé beaucoup de choses.
Ouais.
Il en a déjà changé énormément plus que d'autres présidents. Ça va au gré du vent, selon ses envies. Les dommages de ça aux États-Unis, on va les voir pendant combien d'années?
Pis c'est drôle parce que tu viens de parler de la santé au Québec, qui est un domaine de science. Et au niveau des États-Unis, sous Donald Trump, on a mis la hache dans tous les programmes scientifiques, dans l'éducation, dans le ministère de l'Éducation. Et ça, ça va prendre du temps pour les États-Unis à reprendre justement la pole et à reprendre leur lettre de noblesse là-dedans. Absolument. Ça va prendre plus que 4 ans, on va prendre plus que 8 ans. T'sais, ce que Donald Trump a fait au niveau scientifique aux États-Unis, c'est pratiquement un quart de siècle qu'il va falloir faire en rattrapage par la suite. Ça, c'est majeur.
Puis si on regarde juste le domaine de la démocratie en général, ce qui est intéressant avec ça, c'est que Donald Trump, présentement, prend beaucoup de dérives autoritaires. Puis ce qu'on voit dans les dernières années à travers le monde, c'est que les démocraties renforcées, les démocraties libérales très fortes, on voit peu à peu quelques dérives autoritaires dans toutes les démocraties libérales à travers le monde. Un fait qui est à noter, par contre, c'est que ces dérives autoritaires-là, c'est rare qu'on fait des retours vers la démocratie. Donc, on a une démocratie libérale qui peu à peu s'effrite. Puis les décisions, les dérives autoritaires que prenne Donald Trump, bien, le président d'après ne va pas nécessairement les réparer. Les raccourcis, les petites imperfections dans la loi que Donald Trump utilise pour prendre des décisions, avoir davantage de pouvoir, bien, il y a de fortes chances que le président d'après, même si c'est un démocrate, utilise les mêmes processus.
Parce que la porte a été ouverte. Exactement.
Oui, puis au nombre de décrets qui est signé par Donald Trump, ça va être dur de revenir en arrière, surtout également. Là,
imaginez les annuler, imaginez les changer. Ça demande beaucoup de temps.
Oui, et bien hâte de voir ce que ça va donner dans les relations Canada-États-Unis également et sur l'échiquier géopolitique international. Et justement,
c'est mon
point
majeur,
on va parler avec Éric Ouellet là, dans l'heure de neuf là, sur le conflit du Venezuela. Là,
manquez pas ça.
Non, le président Maduro au Venezuela qui dit « Hey, Moscou est derrière moi, coudonc. On retourne-tu dans les années de guerre froide? » Méchante bonne question. Et si c'est le cas, oh là 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 là, au niveau mondial, ça va être assez effrayant ce qui peut se produire. Donc, on ne veut pas jouer la catastrophe pour début 2026, mais il faut garder un œil attentif, il n'y a pas de doute là-dessus. On fait une courte pause à l'émission L'actualité ne prend pas congé. Par la suite, on va revenir justement avec l'essentiel de l'actualité. Dans l'heure de 8, on va parler aussi avec Marc Rangé. Peut-être qu'en 2026, Pascal, on va avoir un petit cadeau.
Cadeau.
Post Canada va peut-être être réglé après 2 ans de tractation. Le syndicat des postes a dit aux facteurs et aux syndicats de Postes Canada, ouais, je pense que là, ça serait le temps de signer le deal parce que ça s'en va à la faillite, Postes Canada.
6,5% d'augmentation, 3% aussi pour d'autres, mais l'inflation jusqu'en 2029 pour 55 000 employés. On perd, par contre, 1 milliard par année.
Exactement. Donc, on va parler de ceci avec Marc Rangé également. Dans l'heure de 8, vous êtes à l'actualité, ne prend pas congé sur les ondes de Boulevard 101. L'actualité ne prend pas